Et Francine, vous allez parler à quelqu'un qui fait un retour, parce qu'on lui a déjà parlé il y a quelques semaines, Monsieur Ilric Normando.
Oui, bonjour, Monsieur Normando.
Bonjour.
Vous allez bien ce matin?
Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir à nouveau.
Oui, alors, tout à fait. Vous étiez là le 10 mars dernier. Monsieur
Oui.
Normando est directeur général de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, qu'on va appeler l'ACPEV, hein, ça vous convient? Parce que
Oui, on va
sinon,
sauver
on va
trois
perdre,
minutes.
ben au moins, sur le 12 minutes, on va sauver 3 minutes, comme vous dites,
Sûrement.
sûrement. La dernière fois, c'était la première fois que, la dernière fois, c'était la première fois que on vous recevait à cette émission. On avait parlé de votre parcours, qui est quand même extrêmement intéressant, votre parcours personnel dans le milieu du bénévolat ou encore des organismes sans but lucratif, entre autres à la Croix-Rouge, chez les scouts. On avait parlé aussi de, je dirais, des gens pour qui vous travaillez, les parents, quel type de parents s'adressaient à vous, et aussi de ces enfants, parce que vous êtes très préoccupé, évidemment, étant préoccupé des parents, vous êtes aussi préoccupé des enfants qui ont des handicaps visuels. Et malheureusement, le temps nous avait manqué pour comprendre un peu mieux ce qu'était cette association que vous dirigez et aussi les interventions que vous faites, la philosophie que vous avez. Alors, j'aimerais ça peut-être dans un premier temps que vous nous fassiez l'historique brièvement de l'association, puisque depuis sa création en 1980, on peut dire que sa mission a changé radicalement. Est-ce que je me trompe?
Ben, je sais pas si j'emploierais le mot radicalement, mais donc oui, on a été fondé en 1980. À l'époque, vous savez, dans les années 80, c'était la défense de droits qui était vraiment importante parce que à cette époque-là, c'était très difficile d'obtenir des services pour les enfants qui avaient une déficience visuelle ou qui étaient aveugles. On n'était pas encore dans une philosophie où la Charte des droits et libertés de la personne avait pleinement pris sa place au Québec. On était encore dans une philosophie d'isolement, de mettre ces enfants-là beaucoup dans des endroits spécialisés à part du reste de la population. Et il y avait beaucoup de travail de défense de droits à faire pour qu'on respecte ces enfants-là qui avaient une déficience visuelle ou qui étaient aveugles. Et donc, quand ces parents-là se sont regroupés, ils étaient 14 à l'origine en 1980, leur objectif, c'était de se faire entendre. C'était de dire, nos enfants ont le droit d'avoir accès aux mêmes services, aux mêmes avantages, aux mêmes droits. Que n'importe quel autre enfant dans la société et on leur place pleinement dans la société. Et ça, ben, ça a été un travail qui a été un travail d'au moins 25 ans à faire évoluer cette situation-là, ce qui nous a amené vers les années 2000. Et puis, dans les années 2000, il y a eu un processus de réflexion qui s'est fait à l'association pour recentrer un peu la dynamique en se disant, ben, peut-être qu'on devrait plutôt aider les parents plutôt que d'aller se battre sur tous les fronts, à essayer, vous savez, la défense de droit, c'est un gros travail souvent d'avocats, de gens avec des connaissances juridiques, etc. Mais dans les faits, faire de la défense de droit, ça aide pas les parents à mieux comprendre leur enfant, à mieux aider leur enfant, à mieux accompagner leur enfant, puis à mieux aider à l'intégration de leurs enfants dans la société. Et donc, on a pris ce virage-là en 2004-2005 de dire maintenant, on va mettre notre énergie sur les parents. Il faut qu'on éduque nos parents, il faut qu'on accompagne nos parents, il faut qu'on écoute nos parents, qu'on les soutienne. Donc, c'est tout ce virage-là qui a été pris il y a une vingtaine d'années. Et c'est encore ça notre philosophie aujourd'hui, c'est de travailler avec les parents, de les soutenir, de les écouter, hein. Vous savez, des fois, les parents vivent des moments extrêmement difficiles au début quand ils apprennent évidemment le diagnostic de leur enfant, mais aussi tout au long de leur vie à accompagner leurs jeunes. Il y a des frustrations, hein, quand l'enfant revient de l'école et que c'est difficile pour lui parce que l'intégration ou l'inclusion est difficile. Ben les parents notre cœur de parent saigne quand on voit que nos enfants ont de la misère. Puis ben ça, c'est le rôle de nos équipes, de notre équipe d'intervention, de donner des trucs aux parents, puis de les accompagner dans ce travail-là, parce que c'est des fois, ça demande beaucoup d'énergie puis d'efforts, là. C'est un travail de se battre pour l'inclusion de nos enfants, des fois.
Mais j'imagine que vous avez quand même continué à défendre les intérêts des gens pour qui vous travaillez.
Oui, mais on le fait d'une façon différente. On le fait plus dans l'action de faire connaître c'est quoi les droits des jeunes, des enfants à leurs parents. Que les parents soient outillés de savoir, ben mon enfant, il a le droit à un plan d'intervention à l'école. Mon enfant, il a le droit d'aller dans une école dite normale et d'être pleinement intégré dans le système scolaire. Mon enfant, il a pas besoin d'être traité différemment de d'autres enfants, mais il faut qu'on ajuste à ses besoins, en fonction de ses besoins. Et ça, c'est ce besoin d'éducation-là qu'on fait auprès des parents. On n'a malheureusement pas, sous notre mandat de l'année 2004-2005 qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, on n'a malheureusement pas les ressources financières pour avoir des avocats, des spécialistes en droit, puis prendre des causes juridiques et faire de la défense dans l'aspect légaliste des choses. Ça, on n'a pas ces équipes-là à l'ACPEV, mais nos partenaires de d'autres organisations, le RAC, la COFAN, donc il y a d'autres organisations qui ont développé cette expertise-là et l'OPHQ, et c'est à eux qu'on se réfère et vers eux qu'on guide les parents quand il y a des causes spécifiques en matière de droit qui ont besoin d'être traitées. On est comme n'importe qui d'autre, on fait appel à des experts et on reconnaît que les experts dans ces dossiers-là, c'est pas nous.
Bon, c'est bien quand même, c'est que en fait, vous travaillez beaucoup en partenariat avec des gens qui peuvent vous soutenir dans certaines actions où vous avez moins, peut-être pas d'expertise, mais en tout cas, comme vous dites, vous avez moins de ressources.
Exactement.
En parlant excusez, allez-y.
Oui, bien, en fait, j'allais faire la transition en mentionnant aussi que, vous savez, la déficience visuelle, c'est pas comme d'autres types de déficiences, comme par exemple la déficience auditive, parce que nos enfants sont peu nombreux dans la société. Vous savez, juste l'aspect déficience visuelle, là, avoir une basse vision, ben ça touche un enfant sur 1000. Fait quand on prend une école primaire qui a 500, 600, 700 élèves, ben mathématiquement parlant, les chances qu'un enfant se retrouve seul avec une déficience visuelle dans un milieu scolaire complet, dans une école primaire complète, les chances sont élevées que ça se produise. Alors, l'enfant comme tel, il n'y a pas d'autres modèles, il n'y a pas d'autres enfants comme lui à l'intérieur du système scolaire avec qui se comparer. Fait que notre association a aussi un rôle super intéressant pour les jeunes parce que des jeunes comme ça qui ont une maladie qui se produit à 1 sur 10 000 ou 1 sur 100 000, ben, à travers notre association, quand on fait des activités, ils ont la chance de connaître d'autres jeunes qui vivent les mêmes choses qu'eux. Et ça, c'est règle générale, c'est pas dans leur milieu scolaire puis leur vie de tous les jours qu'ils sont en mesure de le faire. Donc souvent ça a un effet rassurant, puis ça a un effet d'appartenance aussi qui est important pour les jeunes de dire j'en connais d'autres qui sont comme moi, je suis pas tout seul. Et ça, ben c'est une autre mission à travers nos activités où on aide ces jeunes-là à découvrir qu'ils sont pas seuls dans la société à vivre les difficultés qu'ils vivent, qu'il y a d'autres jeunes qui les vivent également.
Alors, d'où l'importance que vous accordez à l'intégration dans la communauté et au développement de l'autonomie et de la vie sociale, qui est une espèce de philosophie là, qui se cache derrière toutes les interventions que vous faites. Écoutez, le temps file, c'est incroyable. À chaque fois qu'on vous parle, on se dit, est-ce qu'on va finir par... C'est tellement intéressant tout ce que vous avez à nous raconter.
C'est dommage, parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur l'autonomie, fait que vous n'aurez pas le choix de me réinviter.
Ben, c'est ça, mais de toute façon, on vous a fait une proposition et puis, oui. Vous allez probablement revenir, si je comprends bien, là, sur nos ondes de façon régulière. Écoutez, je ne veux pas vous tordre le bras là, en disant ça, mais comme on en a déjà parlé, je connais votre intérêt.
Oui,
mais
clair.
En finissant là, rapidement, là, oui. Les services et activités que vous faites pour les adolescents.
Oui, ben écoute, c'est notre clientèle adolescente, quand ils viennent avec nous, on a développé un modèle où on leur fait faire tout plein d'activités, mais ce qu'on se rend compte, puis c'est un changement qu'on est en train d'apporter dans l'évolution, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont beaucoup de besoins spécifiques en lien avec le premier emploi, en lien avec des questionnements sur la sexualité, en lien avec le premier appartement, en lien avec les études supérieures, le cégep, l'université. Je rentrerai pas dans les détails maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un sujet qu'on pourrait peut-être traiter dans l'avenir, des besoins besoins spécifiques de nos adolescents qui se dirigent progressivement vers l'âge adulte et qui vivent des choses différentes par le fait de leur déficience visuelle ou le fait qu'ils sont aveugles.
Oui, mais j'imagine que quand même, ils ont le même, je dirais, le même objectif que beaucoup d'adolescents, c'est une espèce de détachement de leurs parents.
Oui, et quand on parle des parents dans un contexte comme ça, la difficulté est souvent en lien avec ce qu'on appelle le phénomène de surprotection. C'est que les parents, dans la plus belle et la plus merveilleuse des intentions, c'est certain que tout bon parent veut protéger son enfant. Et quand on a un enfant qui a une déficience et que les parents, eux, n'ont pas cette déficience-là, il y a une espèce de mécanique involontaire, là, c'est subconscient, mais il y a une mécanique involontaire de surprotection qui se présentent, qui se pointent des fois le bout du nez, et les parents ont une tendance à on va dire, couver leurs adolescents plus que d'autres adolescents qui n'ont pas cette déficience visuelle-là. Et ça devient problématique. Les jeunes adultes aveugles nous en parlent. D'ailleurs, c'est le sujet d'un de nos prochains congrès au mois de mai. C'est une des conférences qu'on va avoir en partenariat avec l'INCA, où on va expliquer cet élément-là à nos parents, d'être bien prudents, de ne pas vouloir trop protéger leurs enfants dans ces premières étapes-là pour qu'ils puissent développer leur autonomie. J'ai un exemple qui me vient en tête, mais c'est si on veut que notre enfant soit capable de cuisiner quand il va être dans son premier appartement, ben c'est certain que si vous faites tous ses repas jusqu'à temps qu'il quitte le nid familial, eh bien, vous n'y aurez pas appris à cet enfant-là à se préparer pour son premier appartement. Mais ça, c'est le genre de choses qu'il faut que les parents soient conscients de dire, ben vous serez pas là pour lui montrer elle est où la pinte de lait, puis comment faire la différence entre le pot de sucre puis le pot de farine et d'autres éléments comme ça pour que quand votre jeune il se mette à cuisiner, ben il faut qu'il apprenne des trucs, il faut qu'il apprenne quand il est aveugle comment remplir une tasse avec de l'eau chaude sans se brûler, et puis que ce soit pas vous comme parent qui le fassiez en surprotégeant votre enfant.
Monsieur Normando, je suis désolée, je suis obligée de je suis obligée de vous couper la parole, le temps file, mais comme on sait qu'on va se reparler, alors on aura vraiment l'occasion d'élaborer sur tout ça. Alors Ilric Normando, qui est directeur général de l'ACPEV, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Au revoir.